Europe 1, le 22-22-30, Romain Oquet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de la nuit. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'infos, il est 22h. Merci d'avoir choisi Europe 1.
À mesure qu'on va progresser sur la vaccination, que nos efforts vont permettre de réduire la circulation du virus, on va progressivement ensuite rouvrir un certain nombre de lieux selon un calendrier qu'on est en train de travailler.
Pourra-t-on boire un café en terrasse dès la mi-mai ? Pas d'engagement ferme de l'exécutif. Il faut rester prudent, nous dit le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. L'Élysée qui refuse de s'enfermer dans un calendrier intenable. Décryptage dès le début du journal. Un calendrier soumis à la campagne vaccinale, avec les inquiétudes autour des vaccins AstraZeneca, Johnson & Johnson et le succès des sérums à ARN messager comme Pfizer ou Moderna. Une réussite qui inspire d'autres laboratoires. Les vaccins Pfizer et Moderna justement disponibles pour les plus de 60 ans depuis ce matin. Encore faut-il qu'il y ait assez de doses. Reportage dans un centre de vaccination parisien. Dans ce journal également, où est donc la petite Mia ? La fillette reste introuvable 72 heures après sa disparition. Le profil de ses ravisseurs, lui, se précise. Nous serons aussi au Royaume-Uni qui s'apprête à faire ses adieux au prince Philippe, le roc de la reine. Les obsèques ont lieu demain à Windsor. Du sport également avec la 33e journée de Ligue 1 et cette surprise puisque Montpellier mène pour l'instant 1-0 sur la pelouse du LOSC, leader du classement. Un point sur la rencontre à la fin du journal. À 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit Maëlle Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com. Un échange autour des crédits immobiliers. Et c'est le moment, si vous souhaitez acheter, car les taux sont historiquement bas, nous dira notre invité. Ce sera juste après la bourse et vos prévisions météo pour demain. Avec un temps ensoleillé sur une grande partie du pays, c'est dans le sud que la pluie, la neige et les orages vont perturber la journée, nous dira Anissa Haddadi.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Cap sur le 15 mai, c'est l'échéance fixée par le gouvernement. Pas de grandes promesses, mais la possibilité de rouvrir d'abord les terrasses et les musées. Un calendrier par étapes avec des paliers toutes les 3 semaines. Mais l'exécutif marche sur des œufs et prévient qu'il n'y aura pas de miracle. La troisième vague est loin d'être terminée, avertit aujourd'hui Jean Castex en déplacement au CHU de Caen. Gabriel Attal confirme, le porte-parole du gouvernement était lui en visite dans un centre de vaccination du Jura, pressé de questions sur le retour à une vie normale.
Le président de la République l'a dit dans son allocution il y a 15 jours. Il a parlé d'un début de réouverture à la mi-mai, en commençant par certains lieux de culture et certaines terrasses. Ensuite, les choses se feront progressivement à mesure que la situation sanitaire s'améliorera et à mesure que la vaccination continuera à se déployer. Donc à mesure qu'on va progresser sur la vaccination, que nos efforts vont permettre de réduire la circulation du virus, on va progressivement ensuite rouvrir un certain nombre de lieux selon un calendrier qu'on est en train de travailler. On était hier en réunion autour du président de la République et du Premier ministre avec un certain nombre de collègues du gouvernement pour travailler à ce calendrier de réouverture, aux modalités de réouverture. Mais aujourd'hui, l'heure est évidemment à la mobilisation et à la prudence.
Voilà, doucement, progressivement, on l'entend, le porte-parole du gouvernement refuse la précipitation. Le problème, c'est que certains commerçants, restaurateurs en tête, les acteurs du monde de la culture, du tourisme, ont compris que la reprise, ce serait le 15 mai. Sauf que Jean-Rémy Baudeau, l'Élysée ne veut pas s'enfermer dans un calendrier et refuse de donner des échéances au jour près.
Non, pas de calendrier précis. Et notez la petite prudence dans la bouche de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, ne dit plus 15 mai, comme l'avait dit Emmanuel Macron. Il parle de la mi-mai. Ce sera donc le début de quelque chose et ça commencera par certaines terrasses, certains lieux de culture. Là encore, je cite Gabriel Attal, on notera la prudence. La réalité, c'est que l'Élysée veut donner des perspectives, rassurer, montrer que l'exécutif est à la manœuvre pour permettre aux Français de reprendre le plus rapidement une vie normale. Mais comme me le confie un conseiller à l'Élysée cet après-midi, il y a toute une série de données à prendre en compte pour pouvoir décliner un calendrier précis, comprendre des données sanitaires, les vaccins, des données techniques, mais surtout des données politiques. Si on rouvre, il faut que ce soit pour de bon, dit-on à Bercy. Voilà pourquoi il faudra attendre la prochaine allocution du président pour avoir des dates et un protocole précis et officiel. D'ici là, l'exécutif veut éviter de s'avancer. Souvenez-vous, la dernière fois que le président a demandé de tenir 4 à 6 semaines, je cite, c'était début mars, on est 6 semaines plus tard et rien n'est réglé.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1, une position d'autant plus périlleuse pour l'exécutif que le déconfinement s'accélère chez nos voisins européens. Après l'euphorie sur les terrasses des pubs anglais cette semaine, c'est au tour de l'Italie d'annoncer la réouverture de ses restaurants pour le 26 avril. Et dès le 1er mai, les stades italiens pourront à nouveau accueillir du public jusqu'à 1000 spectateurs. Et le sésame pour retrouver cette vie normale, c'est bien sûr la vaccination. Elle progresse en France avec plus de 450 000 injections quotidiennes. Malgré tout, la couverture vaccinale reste faible. Seuls 23% de la population a reçu une première dose. On dégringole à 8% pour les deux doses. Et ce n'est pas grâce au vaccin AstraZeneca que les chiffres vont décoller. Les autorités sanitaires annoncent ce soir 4 nouveaux décès et 9 cas de thrombose supplémentaires. La méfiance s'installe. L'Europe pourrait même se passer prochainement de ce vaccin controversé, aussi pour ses retards de livraison. La ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, l'a évoqué aujourd'hui. Bruxelles n'est pas certain de renouveler ses bons de commande pour 2022. Quant au vaccin des laboratoires Johnson & Johnson, l'Agence européenne du médicament doit rendre son avis mardi prochain. L'utilisation de ce sérum a été suspendue aux États-Unis et les livraisons retardées en Europe après 6 cas graves de caillots sanguins. En réalité, Victor Dolande, les stars mondiales de cette campagne vaccinale, ce sont Pfizer et Moderna, autrement dit les vaccins à ARN messager. Et du coup, tout le monde s'y met, Victor.
Oui, les succès de Pfizer et Moderna ont donné des idées à leurs concurrents. Le prochain, ce sera le laboratoire allemand CureVac avec un vaccin disponible dès le mois de mai. Et la liste est loin d'être terminée. Pas moins d'une douzaine d'autres labos sont dans les starting blocks. Le français Sanofi a lancé des essais cliniques de phase 1 et 2 avec une biotech américaine en mars dernier. Le vaccin pourrait être disponible courant 2022. Des essais également lancés par des labos chinois, japonais ou indiens. En fait, la réussite de Pfizer et Moderna a dopé la recherche sur les vaccins ARN messagers, selon Bernard Verrier, directeur de recherche à l'Institut de biologie et de chimie des protéines.
Ça libère vraiment à la fois les innovations, les budgets, les finances. Et il y a un mouvement de fond qui se déclenche sur la vaccination ARN et ça va débloquer d'autres pathologies, les vaccins contre le sida, les vaccins contre le cancer. C'est clair que ça suscite énormément d'enthousiasme.
Et cette technologie n'en est qu'à ses débuts, selon les scientifiques. Rappelez-vous, en décembre dernier, il fallait stocker les vaccins Pfizer dans des supercongélateurs à moins 80 degrés. On sait maintenant les conserver à moins 20. Et dans quelques mois, on devrait pouvoir les garder à température ambiante. Et surtout, plus de labos pour développer des vaccins à ARN messager, ça veut dire aussi beaucoup plus de doses disponibles dans les années à venir.
Et Victor, on apprend aussi que le PDG de Pfizer envisage une troisième dose de son vaccin.
Oui, il confirme qu'il faudra sans doute une troisième dose entre 6 mois à 1 an après la première injection. Et à partir de là, il y aura une vaccination à nouveau chaque année. Mais tout cela doit être confirmé par des études sur la durée de l'immunité parce que pour le moment, on n'a tout simplement que 6 mois de recul avec les premières personnes vaccinées avec le sérum Pfizer.
Merci Victor Dolande, spécialiste santé d'Europe 1. Le vaccin Pfizer qui sera probablement plébiscité par les plus de 60 ans. À partir d'aujourd'hui, ils ont le droit de choisir où ils se font vacciner et surtout avec quel sérum. Encore faut-il avoir assez de doses. C'est ce qu'a constaté Johanna Chabas dans un centre de vaccination du 15e arrondissement de Paris. Et on peut dire qu'il y a eu du retard à l'allumage.
Dans cette mairie d'arrondissement, la vaccination des personnes de 60 à 69 ans n'a même pas pu commencer. Béatrice, 61 ans, qui habite dans le quartier, comptait beaucoup sur aujourd'hui pour enfin être vaccinée. Mais elle n'a même pas réussi à prendre rendez-vous.
J'avais regardé depuis le début de la semaine si je pouvais prendre rendez-vous. Il n'y a aucun rendez-vous. J'ai réessayé aujourd'hui puisque c'était ouvert aux plus de 60 ans. Toujours pas de rendez-vous. Aucune possibilité d'en prendre un, même à moyen terme. Voilà, aucune visibilité.
La faute à des sites de réservation pris d'assaut. Impossible d'avoir un rendez-vous à Paris avant une dizaine de jours. Mais pour Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement, le problème, c'est surtout le manque de doses.
Au mois d'avril à Paris, nous avons moins de doses qu'au mois de mars. On passe de 40 000 doses hebdomadaires à 30 000 doses pour tout Paris. Déjà, ce sont des quantités qui sont très faibles et en plus, elles sont diminuées ce mois-ci. On ne pourra pas vacciner toutes ces catégories de personnes supplémentaires avec de moins en moins de doses.
Autre problème, selon lui, 2/3 des vaccins dans son centre sont maintenant destinés à des rappels des deuxièmes doses, ce qui ralentit forcément le rythme des primo-injections.
Reportage signé Johanna Chabas.
Europe Soir, le 22-22-30.
22h09 sur Europe 1. Et si Mia avait déjà quitté la France? C'est la crainte du procureur de la République d'Épinal. 3 jours après sa disparition, la petite fille reste introuvable, probablement avec sa mère. C'est elle qui aurait contacté les 3 ravisseurs via Internet pour qu'ils enlèvent sa fille. 3 hommes dont le profil commence à se dessiner. Les précisions de notre correspondant dans l'Est, Arthur Mbaché.
Chez l'un d'entre eux, les enquêteurs ont retrouvé le script, le texte qu'il fallait dire à la grand-mère de Mia pour obtenir sa confiance et repartir avec l'enfant. À l'origine de ce scénario, qui a parfaitement fonctionné mardi, la mère de la fillette qui a trouvé et recruté ses hommes de main sur Internet, dit le procureur d'Épinal Nicolas Heitz, et qui a récupéré sa fille 20 minutes seulement après l'enlèvement.
Il n'est pas à exclure qu'elles aient pu quitter le territoire national. Notre département, les Vosges, n'étant pas très éloigné de plusieurs frontières. Des diffusions internationales ont bien entendu été réalisées pour faciliter leur localisation et leur appréhension. Mon parquet a également émis des demandes d'entraide pénale internationale en urgence absolue, dans le détail desquelles vous comprendrez naturellement qu'il m'est impossible de rentrer.
La plaque d'immatriculation d'une des voitures des kidnappeurs a été relevée par un témoin ici dans les Vosges mardi. Or, cette plaque est enregistrée dans les bases de données des services de renseignement. La DGSI, ces hommes proches de l'ultra-droite, faisaient même l'objet d'une enquête du parquet national antiterroriste. C'est grâce aux informations de ces services qu'ils ont été repérés et arrêtés. Épinal, Arthur Mbaché, Europe 1.
À Strasbourg, la mairie ne financera pas la construction d'une nouvelle mosquée. L'association turque Millî Görüş, qui défendait ce projet, a décidé de renoncer elle-même à cette demande de subvention municipale. La maire de Strasbourg l'a annoncé ce matin et met un point final à la polémique. Mélina Fachin.
L'association turque Millî Görüş renonce en effet aux 2,5 millions d'euros que la mairie était prête à lui verser. Cet argent, à lui seul, n'aurait pas suffi à poursuivre les travaux, comme l'explique Jeanne Barzéguian, la maire de Strasbourg.
Ce qui a le plus changé, c'est en fait le refus des collectivités région Grand Est et collectivités européennes d'Alsace de financer le projet. De fait, ça déséquilibrait le plan de financement. Et donc, l'association m'a adressé hier un courrier me disant qu'à ce stade, il retire leur demande de subvention.
Jeanne Barzéguian souhaite maintenant éteindre la polémique. Elle estime n'avoir commis aucune faute politique, mais elle regrette l'ampleur qu'a pris cette affaire, les critiques virulentes du gouvernement. Quant à l'avenir de la mosquée Eyüp Sultan, il est incertain. Le chantier, commencé il y a plus de 3 ans, est bien engagé, mais loin d'être terminé. L'association, qui n'a pour l'instant pas répondu à nos sollicitations, va sans doute devoir trouver d'autres financements pour ériger la plus grande mosquée d'Europe. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Un an avant les élections présidentielles, le QG du Rassemblement National fait peau neuve. Le siège du parti, jusqu'à présent à Nanterre, va déménager dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Un nouveau QG de campagne donc que Marine Le Pen a déjà surnommé la capitainerie. Lui était un ancien ministre de Jacques Chirac, un fidèle aussi de Nicolas Sarkozy. Éric Raoult est décédé aujourd'hui à 65 ans. Un homme aussi fidèle à la Seine-Saint-Denis et à la mairie du Raincy où il a effectué une grande partie de sa carrière politique.
Europe 1, le 22-22-30.
Il y a une semaine, le Royaume-Uni apprenait la disparition du prince Philippe, décédé à 99 ans. Et demain, les Britanniques pourront faire leurs adieux au mari de la reine Elisabeth II. Une cérémonie qu'ils ne pourront suivre qu'à la télévision. Les obsèques auront lieu en petit comité, sans artifice, dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Le reportage d'Anaïs Cordoba.
Nazareth est venue déposer une gerbe de fleurs au pied de Buckingham pour le prince Philippe. Demain, elle regardera les funérailles à la télévision, faute de cérémonie d'hommage national.
C'est vraiment dommage. Les gens pourraient au moins partager ce moment, cet hommage. Mais on ne peut pas à cause de la pandémie. Ça me rend très triste.
Christie, venue spécialement du nord de l'Angleterre pour les funérailles, compte se rendre devant Buckingham demain, bravant l'interdiction de se réunir devant les résidences royales.
On aurait quand même bien aimé voir une procession pour pouvoir lui rendre hommage. Il était une figure publique, alors quelque chose aurait dû être organisé pour nous. Nous, le public, nous sommes ceux qui soutenons la famille royale, qui leur donnons leur importance.
Mais d'autres Anglais, comme Phil, approuvent cet enterrement intime qui correspond aux souhaits du défunt prince.
Il était discret, il ne voulait pas de cérémonie en grande pompe. Je pense qu'il serait content de cette cérémonie réduite à cause du Covid. Il ne voulait pas de chichi.
Demain, le cercueil du prince Philippe sera accompagné à la chapelle Saint-Georges dans les jardins du château de Windsor par une procession composée uniquement de militaires et de membres de la famille royale. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Dans le reste de l'actualité à l'étranger, la Russie favorable à un sommet avec les États-Unis. Une rencontre positive pour Moscou malgré la volée de sanctions entre les deux pays. Une main tendue qui n'empêche pas Moscou de répliquer face à des sanctions américaines. La Russie annonce que plusieurs membres de l'administration de Joe Biden, comme le directeur du FBI, ont interdiction d'entrer sur son territoire. On termine avec les sports et la 33e journée de Ligue 1. Le leader du classement Lille accueille ce soir Montpellier. Sébastien, vous êtes en direct du stade Pierre Mauroy pour Europe 1. Où en est-on après la première mi-temps ?
Eh bien, nous sommes en seconde période, hein, 54 minutes de jeu exactement, 55 bientôt. Et ici au stade Pierre Mauroy, Montpellier mène 1-0 sur la pelouse du leader. C'est un petit peu la surprise. Hein. But magnifique avec un centre de Laborde et une tête plongeante d'Andy Delors. 12e réalisation cette saison pour l'attaquant Montpellier. Un but inscrit à la 21e minute. C'est un match ouvert avec du rythme, beaucoup de situations, d'occasions, mais des Lillois malgré tout qui confirment qu'ils sont moins bien, moins bons depuis quelques matchs. Leurs prestations sont moins convaincantes. Ils sont à la peine dans l'animation offensive. Ils paraissent tout simplement un petit peu émoussés. Et attention tout de même au faux pas, hein, car les points sont précieux dans la course au titre et aux places pour la Ligue des Champions. Il reste peu de journées. Et si Lille ne se reprend pas ce soir, ils pourraient faire une mauvaise opération et voir revenir Paris, Monaco, Lyon. Ils ont du temps pour réagir, pour se ressaisir. 55 minutes de jeu, donc 56 ici au Stade Pierre Mauroy. Donc le score, on le rappelle, 1-0 pour Montpellier.
Merci Sébastien. Un boîte en direct du stade Pierre Mauroy de Lille pour Europe 1. Et après la pelouse, la terre battue, direction les cours du tournoi des Masters 1000 de Monte Carlo. Et avec cette surprise, Rafael Nadal, favori, éliminé par Andrei Rublev. Une journée aussi marquée par la performance du Britannique Daniel Evans. Après avoir sorti le numéro 1 mondial Novak Djokovic, il s'est offert tout à l'heure le 15e joueur mondial, le belge David Goffin. Il retrouvera Stefanos Tsitsipas en demi-finale. Il est 22h16, la météo, un ingrédient crucial pour passer un bon week-end. Anissa Haddadi, il faudra pourtant s'attendre à un temps plus agité dans le sud.
Oui, et en particulier, Romane, des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur. Hein, dès le début de la journée, nous avons des pluies qui vont arroser tout le pourtour méditerranéen. Des pluies parfois accompagnées de coups de tonnerre, notamment du côté du Var. Et puis au fil des heures, ces pluies, elles vont se décaler doucement vers la Corse. Nous aurons d'ailleurs des orages dans le sud-ouest de la Corse demain après-midi. Sur les Pyrénées, il neige à partir de 1000 mètres d'altitude, où on attend d'ailleurs 10 cm de neige fraîche. Sur la moitié sud de l'Aquitaine à la vallée du Rhône, en passant par l'Auvergne, là le temps reste sec. Nous aurons du soleil qui va se partager le ciel avec quelques nuages de temps en temps. Et puis le Mistral et la Tramontagne qui souffle encore demain jusqu'à 60 km/h partout ailleurs et en particulier sur la moitié nord du pays. La journée est ensoleillée. C'est au bord de la Manche que le soleil sera le plus généreux demain, avec tout de même quelques petits passages nuageux. Côté température, encore quelques gelées demain matin avec moins 4 degrés à Aurillac, moins 3 pour Montluçon, moins 2 à Clermont-Ferrand, moins 1 à Besançon, 3 degrés à Paris, Lille, Lyon et Biarritz, 6 pour Marseille et 8 degrés à Nice. Dans l'après-midi, comptez 10 degrés pour Dunkerque, ça grimpe un tout petit peu, 12 à Caen et Strasbourg, 14 à Rennes et Paris, 15 à Bordeaux et 17 à Marseille.
Des prévisions signées Anissa Haddadi. Europe 1. Vous ne bougez pas, dans un instant, on fait le point sur les places financières. Avant l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit Maëlle Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com. Et c'est le moment, si vous souhaitez acheter, car les taux sont historiquement bas, nous dira notre invité. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Romain Oquet.
Et à 22h18, on fait le point sur la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Wall Street poursuit sa course au sommet ce soir. Le S&P 500 et le Dow Jones battent de nouveaux records historiques.
Rien n'arrête le S&P 500, rien n'arrête le Dow Jones qui est à 34 201 points en hausse de 0,5%. Et puis le Nasdaq, lui, est tout près de son record. Il gagne 0,1%, 14 052 points. Alors c'est toujours le même scénario, une campagne de vaccination vaccination qui avance, des indicateurs économiques rassurants et des résultats d'entreprises convaincants. Morgan Stanley a vu son bénéfice trimestriel plus que doubler sur un an. L'action perd quand même 2,8%, mais ça monte pour les autres grandes banques. Goldman Sachs et JP Morgan gagnent environ 1%. En revanche, c'est plus compliqué ce soir pour Boeing avec encore des difficultés, des problèmes électriques sur ses appareils 737 Max. L'action cède 1,2%. À côté devise, l'euro est quasi stable, 1,1983 et puis léger repli pour le pétrole. Le WTI est à 63 $ le baril.
Claire, le marché parisien poursuit lui aussi sa marche en avant. Le CAC 40 enchaîne une quatrième séance de hausse ce soir.
Ça monte là aussi, une hausse de 0,85%, 6287 points. Sur la semaine, le CAC 40 a gagné près de 2%. Marché dopé aujourd'hui par l'automobile. Renault grimpe de 2,3%. Stellantis gagne 1,5%. Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont flambé de près de 90% le mois dernier. La hausse, elle est spectaculaire en France, plus 191%. Alors évidemment, on compare ces chiffres avec ceux de mars 2020, au début de la crise sanitaire, un mois où les ventes s'étaient bien sûr effondrées.
Encore des résultats financiers d'entreprise au menu de cette séance et Fnac Darty a publié de très bons chiffres.
Plus 4,9% pour Fnac Darty. Les investisseurs saluent la belle performance du distributeur de produits culturels au premier trimestre. En revanche, L'Oréal perd 1,8% malgré une bonne publication. Mais certains analystes sont déçus par les chiffres de vente des produits grand public du géant des cosmétiques. Fin de semaine positive pour les marchés en Europe. À Francfort, le DAX bondit de 1,3% et bat un record. Plus 0,5 pour Londres et Madrid, plus 0,9 pour Milan. Et à Paris, le CAC 40 avance de 0,8%, 6287 points.
Merci pour ce tour d'horizon complet. Claire Lemaître de Boursier.com. 22h21 sur Europe 1, l'heure de l'interview Écho avec vous, Emmanuel Dutheil. Bonsoir à vous.
Bonsoir Maëlle Bernier.
Bonsoir Emmanuel.
Vous êtes la porte-parole de MeilleurTaux.com, l'un des principaux comparateurs pour les prêts immobiliers. Justement, si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est qu'il y a plusieurs indications qui laissent penser que le mois d'avril 2021 pourrait être un nouveau mois où l'on enregistre les taux les plus bas pour nos prêts immobiliers. C'est ce que vous voyez dans vos tablettes aussi ?
Alors effectivement, hein, depuis plusieurs semaines, on a des taux proches ou équivalents au record de l'automne 2019, à savoir qu'on est, on frôle les 1% sur 20 ans en taux moyen, autour de 1,10 on va dire, et puis on est en dessous de la barre des 1% pour le 15 ans.
Comment ça s'explique ?
Bah, ça s'explique parce que on est quand même encore en début d'année, donc les banques ont des objectifs très ambitieux, d'une part, avec des objectifs quasiment équivalents à l'année dernière.
C'est-à-dire quoi, des objectifs ? C'est que le prêt immobilier, c'est la meilleure façon de gagner un client, donc ils sont prêts à faire de gros efforts ?
C'est ça, ça veut dire qu'on se sert du crédit immobilier comme d'un produit d'appel pour capter des nouveaux clients, et bah, quoi de mieux que d'afficher des taux bas pour stimuler un peu ce marché immobilier et donc gagner des nouveaux clients.
Est-ce que ça vient aussi du fait que c'est plus compliqué pour des gens qui ont des moins bons dossiers d'avoir en ce moment un prêt immobilier ? Je m'explique, hein, parce qu'il faut intégrer maintenant dans le coût du crédit ce qu'on appelle l'assurance emprunteur, ce qui n'était pas obligatoire avant.
Alors c'est vrai que ça pose un vrai souci, hein, cette assurance emprunteur qu'on inclut désormais dans le calcul de la mensualité, en fait, hein, tout simplement, parce que ça veut dire que soit vous avez un peu d'épargne et vous pouvez du coup financer votre projet pour contrecarrer en fait cette somme supplémentaire qu'il va falloir financer, soit vous empruntez moins. Et pour vous donner un exemple, pour un couple de 40 ans qui gagne 4 000 € net par mois, écoutez, soit il va pouvoir l'assurance, ça va être équivalent à, on va dire, un peu plus de 25 000 €. Donc soit il aura ses 25 000 de côté, soit il va falloir qu'il emprunte moins sur le prêt principal.
Oui, et aujourd'hui en plus, les banques n'ont plus vraiment le droit de déroger à ces règles. C'est-à-dire qu'on est revenu à la règle de 35% de ce qu'on appelle le taux d'effort. C'est-à-dire que notre niveau d'emprunt ne peut pas dépasser les 35% de ce qui nous reste à vivre derrière. Mais il y a cette assurance emprunteur qui est entrée dedans et je crois que les banques n'ont le droit de déroger à cette règle que dans un dossier sur cinq, ce qui est très très rare, hein, ce qui est très peu.
C'est ça. Alors surtout, ce qui est vrai, c'est que l'année dernière, elles avaient des recommandations. Là, on est toujours au stade des recommandations. Mais ces recommandations, elles sont très, très, très fortes puisqu'elles sont amenées à devenir des règles absolues dans le courant de l'été. Donc, c'est vrai que les banques...
Il y a un point de rendez-vous, je crois, au mois de septembre. Il faut être dans les clous au mois de septembre.
C'est ça. Alors, c'est vrai que l'année dernière, faut être très clair, elles ont dérogé bien plus qu'à hauteur de 15 ou 20%, à peu près autour de 30%. C'est-à-dire qu'il y a 30% des dossiers qui dépassaient ces fameux critères d'endettement. Or, aujourd'hui, c'est moins facile. Et puis, il y a toute la conjoncture économique et la problématique du chômage qui font qu'il y a beaucoup moins de dossiers, finalement, qui sont, on va dire, totalement dans les clous. Donc, fatalement, ceux qui ont accès au crédit bénéficient de taux très bas. Et pour les autres, c'est un peu plus compliqué.
Et c'est aussi ça qui explique donc la baisse. C'est qu'en ce moment, il n'y a que les très, très bons dossiers.
Il y a des dossiers de gens qui sont effectivement finançables, ça veut dire d'être dans une situation professionnelle stable et puis avoir un peu d'apport, un peu d'épargne. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir de quoi financer ce qu'on appelle les frais annexes, c'est-à-dire les frais de notaire par exemple.
Mais est-ce que ça ne va pas devenir la norme ? Alors sans entrer dans trop de complications, mais il y a ce qu'on appelle les règles de Bâle III, c'est l'organisme qui gère au niveau mondial les règles bancaires, qui dit que là, d'ici quelques années, 2023-2024, c'est quasiment demain, il faudra que les banques françaises fassent autre chose que des prêts à taux fixes, ou en tout cas, si elles font des prêts à taux fixes, il faut prendre tellement peu de risques que grosso modo, ce sera pour personne.
Alors c'est vrai qu'on est dans une situation un peu exceptionnelle, parce qu'on est d'ailleurs, nous, les seuls, les Français, on est les seuls, si on regarde un peu autour de nos voisins européens, à pratiquer cette politique de taux fixes purs. Puisque même les Allemands, ils sont sur ce qu'on appelle des semi-fixes, c'est-à-dire fixes au début, puis après variables. Donc effectivement, on a des banques qui sont un peu dans une exception. Maintenant, il ne faut pas oublier que le prêt bancaire en France est extrêmement sécurisé, à la fois parce qu'il y a donc une assurance emprunteur qui couvre en cas de pépin de santé ou d'invalidité l'emprunteur, et puis également un système de garantie, et qu'on a ce système de un peu de ceinture et bretelles qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde.
Mais est-ce que malgré tout, ça ne va pas obligatoirement la faire augmenter le coût du crédit à cause de ces nouvelles règles, parce que les banques françaises vont devoir montrer encore plus patte blanche quand elles vont faire un dossier de crédit dans les années à venir. Attention, là, pour nos auditeurs, on parle de 2023-2024.
Alors effectivement, il y a ces règles. Maintenant, le marché immobilier français résiste fortement. Il y a aussi beaucoup quand même d'économies derrière. C'est-à-dire que quand le marché immobilier fonctionne, comme ça a été le cas encore une fois l'année dernière, vous avez à la fois des entreprises qui fonctionnent à la fois dans le bâtiment et dans l'artisanat qui fonctionnent très bien. Et puis n'oublions pas que chaque achat immobilier, ce sont des taxes qui rentrent dans les caisses de l'État. Donc il y a un enjeu à la fois pour les particuliers, mais également pour l'État français et l'économie française, puisque les départements prennent de l'argent sur un achat immobilier, les régions, vous voyez, donc les règles peuvent être très strictes. Maintenant, on verra, on est dans une situation tellement particulière.
Oui, peut-être que la situation va rebattre les cartes dans les années à venir, effectivement. Mais là, justement, en ce moment, Maëlle Bernier, il y a beaucoup de dossiers ou pas vraiment ?
Alors, c'est totalement fou, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, nous, pour Meilleur Taux, on bat de mois en mois, depuis le mois de janvier, les records de dépôts de demandes de crédit immobilier. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui plus de demandes qu'on avait en 2019. Donc, ça veut dire que l'appétit d'acheter est là, et même plus que jamais là, et que certainement, de toute manière évidente, vous avez un report très net des Français vers l'immobilier, y compris évidemment de ceux qui ont pu épargner pour les précédents confinements, et aussi parce que ça reste, c'est un peu dans nos gènes, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, la valeur refuge par excellence. Et on a même des jeunes qui avant ne pensaient pas à acheter et qui rentrent dans la démarche d'achat immobilier parce qu'ils dépensent plus ailleurs en fait.
Eh bien, merci en tout cas pour tous ces détails. C'était Maëlle Bernier, la porte-parole de meilleurtaux.com. Moi, je vous dis à lundi 22h20.
Et merci à vous, Emmanuel Duteil. Et à lundi, 13-14h pour La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Et on partira en vadrouille avec vous. Votre invité sera le patron de Trigano, un des grands noms du camping-car, un secteur qui cartonne. À lundi, Emmanuel. 22h28, et tout de suite, on jette un coup d'œil à la une de vos journaux de demain, avec d'abord le quotidien Le Figaro, qui s'intéresse au gel qui a ravagé les cultures françaises depuis
ces 10 derniers jours. La vague de froid survenue après la chaleur exceptionnelle de la fin du mois de mars a des conséquences catastrophiques, nous dit le quotidien, qui consacre aussi un petit encadré aux obsèques du prince Philippe qui ont lieu demain à Windsor. Des obsèques que les Britanniques suivront à la télévision. On en parlait dans le journal de 22h. À la une également de vos quotidiens, il y a également le journal Ouest France qui s'intéresse dans son édito aux énergies de demain. Un sujet en plein dans l'actualité puisque cette semaine, je vous le rappelle, les députés de l'Assemblée nationale s'intéressaient au projet de loi climat. Et juste un petit mot sur cette une de Libération qui s'intéresse au boycott de la Coupe du Monde 2022. Le boycott gagne du terrain, nous dit le quotidien, par rapport au non-respect des droits humains au Qatar, le pays hôte du mondial. Et justement, le foot, on va en parler avant de se quitter. On retourne au stade Pierre-Mauroy de Lille où nous attend Sébastien Boué. Le LOSC, leader de la Ligue 1 de football, qui reçoit Montpellier. Sébastien, où en est la rencontre à la deuxième mi-temps donc ?
Eh bien, leader malmené, mené sur sa pelouse, hein, 1-0 pour donc cette équipe Montpellier-Rennes. Pour le moment, c'est un faux point hein, pour les nordistes, donc mené depuis la 21e minute. Et ce but magnifique d'Andy Delors, une tête plongeante suite à un centre de la bord. 12e réalisation cette saison pour l'attaquant montpellierain. Les Lillois sont menés, mais ils tentent de réagir. Ils viennent de se procurer deux grosses occasions. Une frappe de Benjamin André qui s'écrase sur le poteau à la 57e. Et puis, deux minutes plus tard, frappe puissante de Jonathan Mamba, repoussée par Omlin, le portier montpellierain. Les nordistes dominent cette seconde période. Ils ont la possession, les occasions, mais pour le moment Montpellier résiste et tient bon. 1-0 donc pour Montpellier après 70 minutes de jeu.
Merci Sébastien Boué, on fera un nouveau point sur le score à 23h. En attendant, il est 22h30 sur Europe 1 et vous avez rendez-vous avec la Libre Antenne et Sabine Marin qui s'installe. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Man.
Vous connaissez le numéro 3921, on est avec vous jusqu'à 1h du matin.